Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Ma maladie est invisible et cachée et en même temps puissamment douloureuse, puissamment présente, puissamment contraignante, puissamment combattue. Ma maladie, c'est le plus grand combat que je mène. Pourtant, ce combat est caché. C'est de vous, Pauline Jourdan, et bonjour.
Bonjour à vous, oui.
C'est un deuxième entretien extrait de ce premier récit autobiographique paru en 2016, intitulé « Promets-moi le jour ». Beaucoup de choses sont dites.
Oui, oui, oui.
Douloureuse, cette maladie.
Oui, c'est une maladie douloureuse.
Douloureux d'en parler, parce qu'aujourd'hui vous en parlez ouvertement sur les ondes d'une radio.
Oui.
Et pendant toute cette semaine, c'est courageux de votre part, mais c'est un sacré combat, j'ai envie de dire.
Alors le combat contre la maladie ou avec la maladie, c'est un combat effectivement qui est caché. Et ça m'a pendant longtemps fait beaucoup souffrir, beaucoup plus que la maladie elle-même. Ce côté invisible, caché, qui n'est pas percevable parce que quand on me voit, on ne voit pas spécialement que je souffre, que je suis malade. C'est vrai que ce côté caché, j'ai envie de dire, ça me rappelait dans ma tête, dans mon cœur,
oui.
J'ai l'impression que c'était une honte de parler de cette maladie psychique, que ça pouvait choquer les gens, que ça pouvait leur faire peur, les effrayer.
Alors les gens ont peur. Hein,
les gens ont peur.
Les gens ont peur.
Et c'est ça. Donc,
des
coup,
personnes
le dialogue,
malades psychiques enfermées en psychiatrie avec parfois des traitements lourds. Alors comment, quelle est la parole que vous pouvez donner à ceux et celles qui vous écoutent aujourd'hui et jusqu'à la fin de cette semaine?
Alors c'est vrai que la maladie peut faire peur. Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que les personnes qui sont atteintes de maladie sont avant tout des personnes, des humains, des hommes, des femmes. Et que voilà, on ne peut pas nier une personne, c'est pas possible. On ne peut pas nier à une personne, on ne peut pas le passer à côté sans la voir. C'est inhumain de faire ça. Ce n'est pas possible. C'est une souffrance extrême de ne pas être regardé, de ne pas être vu. C'est extrêmement douloureux. C'est comme si on nous rejetait en tant que personne.
Donc des oubliés.
Des
de
oubliés,
la vie.
Exactement. C'est ça. Et c'est là, moi je pense et je suis sûre que c'est cette souffrance-là de ne pas être vu, d'être oublié, qui est la plus grande souffrance, et non celle de la maladie qui n'est pas rien quand même.
Donc il faut déjà passer cette épreuve de l'acceptation, d'accueillir et d'apprivoiser cette maladie, qui est une maladie, on va peut-être le rappeler, sont des maladies à vie, en ce qui vous concerne.
Maladie psychique, oui, alors je pense que ça dépend aussi de chaque personne, mais c'est une maladie en tout cas pour le très long terme, dans tous les cas.
Qui demande des démarches d'humilité.
Beaucoup, beaucoup d'humilité, beaucoup de confiance et d'humilité.
Ah, il faut beaucoup d'humilité pour accepter un traitement, j'imagine.
Oui.
Je ne vais pas répondre à votre place.
Oui, accepter un traitement, accepter le fait d'être malade, de faire partie des malades, des personnes qui ont besoin d'un traitement,
donc
de médecins.
Donc des cabossés de la vie, des blessés de la vie, des oubliés de la société, c'est ça?
C'est ça, c'est ça. Parce que avant qu'on soit concerné directement, on se dit que c'est pour les autres, que c'est pas nous. Mais quand ça nous arrive, forcément, c'est difficile. C'est un chemin d'acceptation.
C'est des sujets particuliers, des sujets douloureux et au fond tabous.
C'est extrêmement tabou.
Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est aussi tabou?
Alors je pense que ça rappelle, ça provoque en l'autre sa propre fragilité. Donc c'est extrêmement douloureux aussi peut-être pour la personne. De se dire inconsciemment peut-être, moi aussi j'ai des fragilités, moi aussi j'ai peur d'être moi-même fragile, d'être touchée peut-être par ces maladies-là, ou dans ma famille, ou dans mon être. Donc c'est vrai que je pense que ça touche à la profondeur de la personne, et c'est ça qui peut-être provoque la peur.
La peur de la différence, de l'inconnu.
La peur de l'inconnu.
De quelque chose qu'on ne maîtrise pas vraiment.
Exactement.
Parce que cette maladie, vous ne la maîtrisez pas vous-même.
Non, je ne la maîtrise pas. Elle m'est tombée dessus. Je ne l'ai pas choisie directement. Je ne l'ai pas choisie et au quotidien, je ne la choisis pas.
Et vos proches non plus. Vous êtes tombée malade, on a diagnostiqué, on a mis un nom à votre maladie. Vous étiez donc une jeune femme de tout juste 20 ans.
Oui.
Comment vos proches, vos parents ont-ils réagi? L'effondrement?
Alors, c'était très difficile pour moi à vivre. Mes proches, c'est vrai, je pense que c'était difficile aussi pour ma famille. C'est vrai qu'au début, très peu de personnes étaient au courant, mes frères et sœurs, mes parents. Et c'est tout. Mais,
donc, on entend, ça reste caché.
Ça reste caché, c'est très caché, oui. Parce que je pense qu'il y avait aussi beaucoup de respect de la part de mes parents, de me laisser libre d'en parler de moi-même. Donc, que c'est aussi ça. Mais c'est vrai que c'est difficile d'en parler. Très, très difficile.
Pourquoi c'est si difficile d'en parler?
Parce qu'on sent...
Un jugement.
Un jugement. On sent une mise de côté. On sent quelque chose de l'ordre aussi de... dans la relation à l'autre qui change. Au lieu d'être, on va dire, à égalité, en face à face, on passe à une relation parfois qui est déséquilibrée, qui passe de haut à bas. Parce que certaines personnes vont avoir l'impression, quand on parle avec elles, elles vont se dire « Ah, cette personne me dit qu'elle est malade, ça veut dire qu'elle veut que je l'aide. » Mais non, pas forcément. C'est pas parce que je parle de ma maladie que je veux que tu m'aides. Si j'en parle de ma maladie, c'est parce que ça fait partie de moi, de ma vie. Mais la relation, c'est une relation d'amitié, ça ne change rien. C'est pas parce que je parle de ma maladie, si je veux de l'aide, je vais m'adresser à un médecin, à une infirmière, à quelqu'un qui est dans le corps médical. Mais si j'en parle à un ami ou à une personne que je connais bien, je lui fais confiance pour en parler, je ne veux pas que cette personne m'aide particulièrement. Je veux simplement que cet ami soit au courant parce que j'aime cette personne. Je veux son amitié avec toute ma personne, toute ma vie. Voilà. Et ce qui est douloureux, c'est ce changement de relation qui n'est pas juste, je trouve, quand on se dit « Ah, je vais l'aider ». Mais non.
C'est souvent un peu le premier mouvement des personnes.
C'est très, très souvent le premier mouvement, qui est soit un mouvement effectivement où on va se dire « On va aider », soit un mouvement de recul.
Donc un mouvement de peur.
Un mouvement de peur.
Et c'est cette différence, c'est la maladie qui fait peur.
C'est la maladie qui fait très peur.
Alors comment vous avez travaillé un peu en 10 ans ces rencontres de personnes face à la peur ou cette suffisance aussi dans la relation où on domine voulant aider?
Oui, oui, il y a des personnes qui veulent aider, c'est des bonnes intentions, mais...
Mais des maladresses peut-être.
Des maladresses, je pense que le premier besoin c'est un besoin d'amour, de relation.
La personne un peu de vérité, toute simple dans la
vérité,
relation.
Oui, de vérité, tout à fait.
Donc d'égal à égal.
D'égal à égal. C'est pas, c'est pas parce qu'on est malade qu'on est tout en bas et qu'on doit nous aider. On est une personne humaine, on est debout, on est là, on est avec tout notre être.
Et vous êtes bien là dans Des Clés pour Vivre cette semaine, Pauline Jourdan. Et on se retrouve, si vous le voulez bien, dès demain. Je rappelle que vous avez écrit en 2016 ce premier essai autobiographique, si on veut un peu vous parcourir. Et vous avez une belle plume. Donc je vous encourage à écrire. Ce premier ouvrage s'intitule « Premier mois, le jour ». À demain, Pauline Jourdan.
À demain. Merci beaucoup.